Osmose Radio,
la web radio du off.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Mais vous êtes toujours à l'écoute d'Osmose Radio. Ouh, j'apprécie votre persévérance, chers amis. Viendez donc avec moi jeter un œil en coulisses, Stéphane. Et vous, chers amis, on va aller un petit peu voir ce qui se passe derrière le rideau des théâtres en ce festival off d'Avignon auquel Osmose Radio se consacre en plein mois de juillet 2017. Et on va parler d'un autre spectacle au Théâtre du Chapeau Rouge qui se produit à 11h55 ou midi moins 5, c'est vous qui voyez. Par la compagnie CRSE, un seul en scène de Cécile Canal, que je reçois aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le spectacle est un nom un petit peu rallonge. La guerre n'a pas un visage de femme, je me rappelle encore ses yeux. On parlait de jeter un œil en coulisses, justement. En l'occurrence, on peut se rappeler de ceux qu'on a eu l'occasion de jeter peut-être par le passé, auxquels on a eu l'occasion de jeter un coup d'œil par le passé. On appelle ça un échange de regards et ça fait toujours des souvenirs d'amoureux assez intenses. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas toujours question d'amour dans les textes que vous interprétez, puisque vous avez décidé de mettre en scène les textes d'une auteure ukrainienne ou russe.
Elle est biélorusse, d'origine biélorusse.
J'avais une chance sur trois. Puis Svetlana Alexievitch, comment vous avez été amenée à découvrir cet auteur?
Alors, l'œuvre de Svetlana Alexievitch, donc, qui a été prix Nobel en 2015, je l'avais découvert dans La Supplication. C'est un ouvrage qui rassemble l'ensemble des, du moins, de nombreux témoignages des liquidateurs de Tchernobyl. Donc, j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur certains de ces textes il y a un certain nombre d'années. Mmh. Et après, je cherchais un spectacle avec plusieurs personnages interprétés. Et je suis tombée sur La guerre n'a pas un visage de femme, pardon, qui rassemble les témoignages des jeunes filles qui ont combattu entre 1941 et 1945 dans l'armée russe, dans l'armée soviétique. Elles étaient près d'un million. Et c'est une histoire méconnue. Voilà, et ça méritait d'être mis en scène. Voilà.
Et pourtant, c'est vrai qu'on connaît un petit peu mieux Svetlana Alexievitch aujourd'hui parce qu'elle a eu le prix Nobel de littérature en 2015. Mais pour autant, on la connaît depuis un petit peu plus avant. Alors pour ma part, je l'ai découvert aux alentours de 2013 grâce à des feuilletons audio sur France Culture où justement, ils avaient adapté La Supplication dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire les témoignages des liquidateurs de Tchernobyl, tous ces jeunes gens qui ont eu des cancers 10 ans après avoir nettoyé les résidus de la centrale dont le cœur était en fusion. Ils ont été ils ont subi des irradiations qui leur ont créé des problèmes à vie, et en l'occurrence leur vie a souvent été assez courte d'ailleurs. Et puis après, elle a fait aussi un ouvrage qu'elle a appelé par dérision La fin de l'homme rouge, en référence au pot rouge aux États-Unis, et en fait il s'agissait de la fin de l'homme soviétique, évidemment. Voilà. Et donc cet auteur biélorusse gagne à être connu, notamment grâce à des spectacles comme le vôtre. Et alors pourtant, ce n'est pas une nouveauté, ni au Festival d'Avignon, ni pour vous, puisque ce spectacle, en fait, vous l'avez élaboré en 2008.
Oui, il a déjà bientôt 10 ans. Et je l'ai joué en 2008, 2009, 2010, ici à Avignon. Et c'est vrai qu'à l'époque, elle était beaucoup moins connue que ce qu'elle est aujourd'hui. Et le fait qu'elle ait le prix Nobel, je me suis dit, tu vas la rejouer, cette pièce, parce qu'elle était comme elle est maintenant. Hein. C'est-à-dire, elle était aussi touchante, je pense, et je me dis, ce serait dommage. Donc je l'ai reprise l'an dernier, je la rejoue cette année au Chapeau Rouge, dans une salle toute petite, mais qui lui va très bien.
Mmh, voilà. Tout à fait.
Il y a vraiment une proximité avec le public. On est vraiment dans une confession. C'est un très beau lieu pour jouer ce spectacle-là.
Parce que sa méthode à Svetlana Alexievitch, pour autant que j'ai pu en juger, c'est justement d'aller interviewer les gens et de créer un petit peu comme ce que fait Pascal Arello à la radio ou Jacques Chancel à la télévision, enfin, c'est-à-dire créer une intimité avec les personnes qu'on interview et sentir ce respect double, le respect aux gens dont on parle et le respect des gens auxquels on parle. Et donc elle avait réussi à mettre ça, et vous le retranscrivez dans ce spectacle dans lequel vous interprétez seul en scène différents personnages de femmes qui parlent de leurs jeunes années au sein de l'armée rouge, dans ce qu'ils appellent encore là-bas, hein, et ce qu'ils appelaient à l'époque de l'Union soviétique, et encore aujourd'hui dans la Russie poutinienne, la Grande Guerre patriotique de 1941-45. Et elles parlent de leurs jeunes années là-dedans, et vous incarnez différents personnages, la petite vieille blasée, des tas de personnages de baba, comme ils disent en Russie, hein, c'est un terme affectueux d'ailleurs pour dire les petites mères, différents tons de voix, etc. Comment vous avez travaillé ces différentes personnalités? Est-ce que vous êtes schizophrène?
Je sais pas. Non, je pense pas. c'est avec le temps. Donc il y a un personnage qu'on suit tout le long qui est Zinaïda Vassilievna Korj et sa sœur. Donc je me rappelle encore ses yeux, c'est justement le lien à cette histoire qui est vraiment un chapitre du livre. Et après, j'ai trouvé des témoignages plus touchants les uns que les autres. Et le but, ça a été. Cette pièce, elle est un peu comme les matrioshkas, vous savez, ces poupées russes.
Les poupées gigognes.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a une grosse poupée qui est Zinaïda Vassilievna. Ensuite, il y a d'autres personnages plus anecdotiques, entre guillemets, hein, qui racontent un morceau de leur. Du moins une partie de leur guerre. Et puis après, il y a tout le travail des voix qu'on entend, et c'est les petites poupées qui parsèment de tout le spectacle. Voilà. Et c'est vrai que je voulais vraiment rendre cet hommage à la polyphonie de l'œuvre de Svetlana Alexievitch. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme travail sur la bande sonore. Voilà. Vous qui êtes à la radio, je pense que vous y avez été sensible.
Oui, effectivement, parce que alors il y a eu des voix enregistrées d'autres actrices qui ont apporté leur concours à cette création, et aussi des ambiances sonores, bon, évidemment des bruits mitraillettes, des bruits de mécanique de tank, des explosions, un petit peu de musique, enfin tout ça crée un peu l'ambiance, des souvenirs, et quand ça s'arrête, on vous voit seul en scène, en train de monologuer, de raconter dans ses confessions, avec différentes voix que vous venez de le préciser. Au niveau des costumes, on vous voit faire des tâches ménagères de femmes de tous les jours, de grand-mères de tous les jours, même parfois, le ménage, étendre le linge. Et par contre, il y a une évolution au fur et à mesure du spectacle. Vous commencez comme une baba habillée en grand-mère, hein, et vous, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, féminisez au fur et à mesure, dans la mesure où vous enfilez des bas, vous enfilez une robe, et finalement, Il y a un parallèle entre la vie, retour à la vie civile où on peut redevenir féminine, et puis un petit peu ce qu'elles ont vécu dans ces années terribles.
Ben oui, c'est ça. C'était ça leur vie. Hein. C'est-à-dire, c'était des hommes. Du moins, c'était pas genré. Elles étaient à la guerre dans les mêmes bataillons. Voilà, c'était ça que j'avais voulu. Montrer, voilà, vous l'avez vu, c'est très bien.
Mais en même temps, j'ai appris un truc dans votre spectacle, c'est que pendant les 4 premières années du conflit, enfin les 3 premières années, autant dire la majorité, elles avaient des pantalons qui étaient confiés aux garçons, et en fait, elles étaient obligées de les rafistoler elles-mêmes, etc., parce qu'il fallait les ajuster. Enfin,
ouais, c'était au tout début, ça. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, elles n'étaient pas équipées pour. Il n'y avait pas de tenue de femme, donc ils leur avaient donné ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des tenues d'hommes, et ce qui est rigolo dans ces témoignages, c'est que le but, c'était comment on va recoudre ça pour les faire à nos tailles. Et c'est plein d'anecdotes. C'est-à-dire que même dans ces moments-là de guerre où c'est la mort, y a toujours la vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à supporter, du moins que l'humain arrive quelque part à supporter l'insupportable. Et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé dans ce récit, c'est que, et c'est la jeunesse aussi, je pense que c'est la force de la jeunesse, c'est-à-dire que la guerre, c'est une histoire de jeunes, parce qu'il faut vraiment avoir cette inconscience-là pour peut-être continuer à vivre dans ces moments-là. Voilà.
Sans doute. Et si je parlais des pantalons, à l'instant, mais vous avez raison, il y a des tas d'anecdotes qui m'ont fait rire, sourire ou attrister un peu en vous écoutant tout à l'heure, puisque je vous ai écouté aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que dans les photos de propagande soviétique que moi j'ai pu voir sur Internet, qui a donc été conçue pour la com de l'époque, la com du régime, on voit toujours les filles avec des jupes, mais des jupes militaires. Et on pense notamment à Rosa Chanina, qui est vraiment la fille qui avait les yeux revolvers, comme disait l'autre, très très impressionnante, très très belle aussi d'ailleurs, tireuse d'élite dans les batailles, notamment pendant le siège de Leningrad, qui avait donc tué plusieurs officiers SS et qui est utilisée à des fins de propagande, mais qui portait quand même des jupes militaires. Et en fait, c'était vraiment de la propagande. Pendant la majeure partie du conflit, ça n'était pas le cas. D'où le fait que j'insiste là-dessus.
Oui, pardon.
Et je vous assure qu'un autre détail, mais là qui tient à moi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai achevé de lire Les Ruskov de François Cavanna.
Oui,
je le prêterai. Je vous assure que ça va vous intéresser. Et dans ce bouquin, François Cavanna raconte comment il est tombé amoureux dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale d'une Ukrainienne avec laquelle il bossait à l'usine, dans une usine d'armement. Et du coup, c'est vrai que ça a résonné particulièrement à mes oreilles aussi grâce à ça. Donc, vous voyez, on peut recouper des tas d'éléments et comme on disait tout à l'heure, il y a le fait que cette pulsion de vie due à la jeunesse, due aussi au fait aux circonstances, due aussi à mon sens à deux éléments auxquels vous ne pensez pas forcément. D'une part l'âme slave et d'autre part la nature féminine, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est pas de la misogynie ou quoi, c'est simplement que chez les filles il y a un attachement peut-être aux tâches du quotidien qui fait que la vie prend tout son sens en accomplissant ces trucs là, alors que les gars sont peut-être plus dans un délire métaphysique qui les conduit plus facilement à la mort. C'est de la psychologie de comptoir que je fais.
Je sais pas. C'est sûr qu'il y a le souci du détail. D'ailleurs, c'est le témoignage de l'infime et du petit. Et c'est ça qui... Oui, vous avez sans doute raison. J'ai pas trop réfléchi à ça, en fait. Désolé.
Il y a la manière de le ressentir, il y a la manière de l'analyser. Pour ma part, je préfère que vous l'ayez ressenti et retranscrit tel quel, parce que je vous assure que c'était assez touchant. Et tout ça, ça se passe au Théâtre du Chapeau Rouge à 11h55 tous les jours. La guerre n'a pas un visage de femme, quand bien même dans la propagande fasciste, dans la propagande même à l'époque de la Grèce antique, on mettait Athéna avec sa chouette, avec sa lance et avec son casque. Dans la propagande, la guerre a un visage de femme, mais dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Et avec ce spectacle, je me rappelle encore de ses yeux, un spectacle de Svetlana Alexievitch que vous avez mis, vous, Cécile Canal, en One Woman Show, j'ai envie de dire. Alors vous-même, vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait autre chose après 2010 et ce spectacle. En faisant des recherches sur vous, j'ai trouvé un numéro de téléphone à Perpignan, un site web à Genève, et vous me dites que vous êtes d'Avignon. Vous êtes qui en fait?
Il y a un article d'un journaliste suisse, donc c'est vrai que je renvoie surtout vers cet article parce qu'il faisait le lien entre l'œuvre de Svetlana Alexievitch, ça date de 2009, je crois, 2010, et la pièce. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce lien vers cet article.
D'accord.
Sinon, oui, la compagnie est basée à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, mais moi j'habite à Avignon, depuis un certain nombre d'années déjà. Et je joue régulièrement des seuls en scène, c'est plutôt d'éducation populaire. C'est maintenant que j'en parle ou pas, je sais.
Mais justement, c'est l'occasion d'y venir, puisque vous avez aussi un autre projet au sein du Festival Off. Ça se passe aux Ateliers d'Anfou, c'est le soir, et vous avez pas moins de 5 spectacles en alternance.
Oui, c'est une saga. C'est un clown qui a pour passe-temps favori d'apprendre les conférences par cœur, qui s'appelle Alice Laxan. Et là, on est vraiment dans l'éducation populaire, où il y a beaucoup de choses qui sont autorisées parce que c'est un clown. Et le but, c'est de réinterroger tout ce qui nous concerne dans la vie concrète, le travail, la démocratie, surtout en ce moment, la dette, la constitution. Et ce clown essaye d'apporter, pas des solutions, mais tout au moins de la connaissance. De faire passer ses passions, et ça peut être, ça en part d'Athènes, et puis on va jusqu'à Rome, la Révolution française, et c'est des cours d'histoire, et puis voilà.
Des thèmes politiques un peu abstraits, mais qui nous touchent dans notre quotidien.
Et
encore plus aujourd'hui, encore que jamais, je crois. Écoutez, merci à Cécile Canal de nous parler de ses différents projets, notamment celui qui me tenait à cœur et que vous présentez au Théâtre du Chapeau Rouge à 11h55. La guerre n'a pas un visage de femme. Voilà, chers amis, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance, ou en tout cas rester dans l'ambiance avec l'hymne non officiel de l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai envie de dire, et le fameux titre « Katyusha ».
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.